Je vous invite à suivre en présent l'émission de l'Ouest congolais avec Jean-Claude Toumba qui m'a la présentation.
Bonsoir. Différentes marches de protestation à travers le pays contre la guerre et l'action de la MONUC. Elles ont été organisées dans plusieurs provinces du pays par des cadres du PPRD et de l'Alliance de la majorité présidentielle, avec l'appui, dans certains cas, de la société civile. Que reproche-t-on à la mission onusienne? Quel est le rôle de la MONUC et du gouvernement dans la pacification du pays? C'est le thème de cette émission Dialogue entre Congolais. Merci pour vos nombreuses réactions envoyées par SMS et Internet. Nous y reviendrons dans cette émission avec pour invité Ramazan Ishadari, député national PPRD, ex-secrétaire national de ce parti, chargé du processus électoral et des relations avec les institutions. Michel Bonardo, il est porte-parole intérimaire de la MONUC. Et Jacques Joly, sénateur, MLC, et secrétaire national chargé de la décentralisation, défense et sécurité au sein du MLC. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Différentes marches de protestation à travers le pays contre la guerre et l'action de la MONUC. Que reproche-t-on à la mission onusienne? Je vous signale que ces marches visaient à dire non à la guerre au Nord Kivu, mais aussi interpeller la mission onusienne. Il s'agit des provinces telles que Kinshasa, Kasaï-Oriental, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Le point sur toutes ces marches avec notre consoeur Kelly Coupé.
À Goma, au Nord Kivu, toutes les activités sont restées paralysées hier, mercredi 1er octobre. La journée morte organisée par la société civile de Nord Kivu a réussi, car respectée par la majorité des habitants de Goma. Selon les organisateurs de cette journée, Goma ville morte visait à affirmer leur soutien au processus Amani, au plan de désengagement des troupes, mais aussi dénoncer la suspension du CNDP de toute participation au programme Amani depuis 3 mois. En dehors du Nord Kivu, et pour les mêmes raisons, les populations de Kindu dans les Maniema et de Bukavu au Sud Kivu ont aussi exprimé leur mécontentement le même mercredi. Les populations sont descendues dans les rues avec un seul message sur tous les calicots, non à la guerre au Nord Kivu. Mais avant le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, les mêmes manifestations initiées par le PPRD et l'Alliance de la majorité présidentielle par des marches de colère contre la guerre au Nord Kivu ont été observées à Lubumbashi au Katanga le mardi 30 septembre, sans oublier à Mbujimayi au Kasaï oriental et Kinshasa, respectivement le 27 et le 28 septembre dernier. Les manifestants à Mbujimayi et Kinshasa, avec à la tête les gouverneurs des provinces, sont passés au siège des Nations Unies demandant à la mission onusienne d'imposer la paix à l'Est. Notons qu'à Lubumbashi, la paralysie de toutes les activités n'a pas fait l'unanimité. C'est le cas de l'ONG Azado section Katanga. Cette ONG de défense des droits de l'homme a qualifié le caractère obligatoire de la marche de violer la constitution congolaise.
Merci beaucoup, Kaline Kouté. Signalons que des gouverneurs de provinces, notamment au Katanga, au Kasaï-Oriental et à Kinshasa, ou même des ministres du gouvernement central, étaient sur les premières lignes de ces marches. Nous avons, comme je vous l'ai dit dans cette émission, Ramazani Ishadari, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Claude.
Voilà, vous êtes, on l'a dit, vous connaissez assez, député national, PPRD, secrétaire national de ce parti chargé du processus électoral et des relations avec les institutions. Est-ce que vous avez ajouté sur le sens du message que vous avez voulu faire passer lors de cette marche? Est-ce que vous avez ajouté?
Nous disons non à la guerre en Kivu. Nous disons non aux manœuvres de l'extérieur, notamment, je cite ici le Rwanda. Nous disons également que la MONUC, de par sa mission et son mandat, nous aurons le temps de parcourir sa mission et son mandat, de garder, n'est-ce pas, une position d'impartialité. Il ne doit pas être partial, il ne doit pas prendre position en faveur du CNDP. Et c'est pourquoi vous avez vu à travers la République, nous avons multiplié des marches, quel que soit le nombre de gens qu'on a eu ici et là, mais nous protestons contre des guerres à répétition au Nord Kivu, concoctées au Rwanda, et avec comme personne de soupaille Kunda Batware, nous disons non, nous avons fait les élections On a organisé les élections, c'est pour qu'il y ait des institutions démocratiques. Si on s'oppose à quelque chose, on a des institutions, on a des voies démocratiques et constitutionnelles pour le faire. Et nous disons, condamnatoire, il revendique quoi? Il revendique au nom de qui et qui l'a mandaté? Ce sont beaucoup de questions que nous pouvons nous poser pour ce qui se passe au Nord Kivu. Nous disons donc non et nous dénonçons la guerre qui est menée au Nord Kivu avec la complicité des pays étrangers et la partialité de la MONUC dans son rôle.
La partialité de la MONUC dans son rôle. Alors, on donne tout de suite la parole à Michel Bonardo pour répondre. Bon. Je rappelle que vous êtes porte-parole intérimaire de la MONUC.
D'accord. Bonsoir, d'abord.
Bonsoir.
Oui. Alors, évidemment, on fait nôtre les revendications de ces diverses manifestations, c'est-à-dire non à la guerre. C'est précisément pour cette raison que la MONUC existe dans ce pays depuis 9 ans maintenant. C'est justement pour mettre un terme à la guerre. Je crois que au niveau de la guerre nationale, on a eu un franc succès à ce niveau-là. Les gens qui nous écoutent à l'Est particulièrement sont parfaitement conscients du rôle décisif que la MONUC a pu jouer pour apaiser la nation à ce moment-là, et notamment le rôle décisif de la MONUC dans la tenue des élections que Monsieur Ramazani fait part, justement, s'il y a un gouvernement démocratiquement élu aujourd'hui dans ce pays, c'est en grande partie grâce à la MONUC. Maintenant, quand on accuse la MONUC de partialité au Nord Kivu, vous savez, ça fait un peu rire parce que quand on entend la partie, si vous voulez, gouvernementale dire ça, on entend aussi exactement les mêmes échos de la part du CNDP notamment et de la part de certains journaux de Kigali qui sont particulièrement virulents à l'endroit de la partialité de la MONUC envers le gouvernement. Donc quand on est accusé de part et d'autre, si vous voulez, de partialité, c'est que probablement qu'on fait son travail de manière impartiale.
Peut-être que M. Bonardo, je vais peut-être demander à Ramazan Ishadari d'essayer de préciser. Quand vous parlez de partialité de la MONUC, vous voulez dire quoi exactement?
Quand je parle de la partialité de la MONUC, je sous-entends ceci. D'abord, vous savez que la MONUC a été créée en 1999, au mois de novembre, le 30 novembre, avec quatre missions fondamentales, notamment l'application des accords de cessez-le-feu de Lusaka, les suivis de toutes les violations à travers les canaux appropriés, les processus DDRRR, donc gouvernement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion, et la facilitation de la transition pour l'organisation d'élections démocratiques, comme il a dit, et les élections crédibles.
Oui.
On a organisé les élections, nous avons des institutions démocratique et crédible, c'est reconnu à travers le monde entier,
oui.
Et tout d'un coup, il y a la guerre qui éclate à l'Est. Et qui est le maître de cette guerre, c'est Kunda Batware. Kunda Batware a commencé d'abord par s'installer à Minova. Il s'est installé à Minova, là où il y avait des positions de la MONUC. Il quitte Minova, il va à Kichanga, au Nord Kivu. C'est en 2004, je crois. Et il s'installe à Kichanga, encore une fois, là où il y a des positions de la MONUC. Aujourd'hui, Kunda Batware, il est dans ses positions à Bunagana. Du moins, à Tchengere ou à Jomba. Et Jomba et Bunagana, c'est à quelques 5 km. La MONUC est à 5 km de Tchengere. Donc, vous voyez, tout partout la MONUC passe, quand il dit que ça, c'est une zone tampon,
oui.
Ou une zone maître,
oui.
Quand le départ de la MONUC s'effectue, et ce sont les troupes de Kunda Batware qui viennent s'installer.
Merci beaucoup.
Donc là, nous disons qu'il y a complicité de la MONUC par rapport à Kunda Batware.
Voilà,
surtout que au niveau des informations, ça, je vous parle comme responsable.
Oui, mais vous avez dit, Ramazan Chalari, excusez-moi, on va donner aussi la parole à Jacques Joly, du moins vous avez précisé.
J'ai encore à dire.
Évidemment, le débat continue, vous savez que nous allons aller, on a pratiquement 45 minutes pour ça. Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors, à ce niveau, vous avez suivi la MONUC qui est accusée de partialité, et puis Michel Bonardo, le porte-parole intérimaire de la MONUC, lui qui rappelle le rôle joué par la MONUC. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau?
Bon, d'abord, je crois que dans cette situation qui s'est passée à l'Est,
il importe que le gouvernement puisse être honnête avec lui-même. C'est vrai que la situation est complexe et que nous disons tous non à la guerre, mais il ne faut pas cacher ses propres faiblesses derrière la MONUC ou les ambiguïtés de la MONUC.
Là, vous vous adressez à qui ?
Je m'adresse à mon ami Ramadani, bien sûr.
Au gouvernement. Hein.
Au gouvernement. Voilà. Donc, lorsque on accuse la MONUC de la partialité, il faut se reposer dans le temps pour savoir que depuis que Koundé Batoré menace le Nord Kivu et le Sud Kivu, la MONUC a été pour beaucoup pour que Goma ne tombe pas.
Qu'est-ce que la MONUC a fait selon
la MONUC a dû, à plusieurs reprises, bloquer la descente de Kunda sur l'axe Saki, en tirant même sur le groupe de Kunda. Et ça, je crois qu'il était devoir d'honnêteté de tous les Congolais pour savoir que la MONUC fait quelque chose et que, par ailleurs, il se pose un problème d'ambiguïté. C'est sûr qu'il y a une mauvaise lecture du chapitre 7 de Nations Unies et du mandat de la MONUC. La MONUC n'est pas une mission qui doit faire la guerre à la place du gouvernement de la République démocratique du Congo. La MONUC est une mission qui est là pour aider la RDC dans un certain nombre de domaines, comme a cité notre collègue. Mais lorsqu'on lit le chapitre 7, dont beaucoup de gens évoquent, ce n'est pas la MONUC de faire la guerre à la place de la République du Congo. La MONUC doit notamment protéger les civils. La MONUC doit notamment assurer la sécurité des humanitaires et de ses propres troupes. Et c'est vrai que dans ces cas-là qu'il peut utiliser la force. Les FARDC ont le devoir de défendre la République. Et dans cet aspect, dans une de résolution de Conseil de sécurité, la MONUC doit aider la RDC à réformer son système de sécurité, y compris les forces armées. Donc, je voudrais dire que si, lors de premiers accrochages avec le CNDP, les FARDC ont pu, malgré leurs éléments, tenir, c'est parce que la MONUC a apporté un appui massif en termes logistiques, en termes sanitaires, d'évacuation des blessés. Ça, on doit le dire. Je ne suis pas porte-parole de la MONUC, mais
il est là dans cette émission. Il va.
Oui, j'ai dit qu'il y ait la vérité. Parce que si on a des faiblesses, si on n'a pas de troupes qui soient bien, c'est normal. Nous sommes dans une phase difficile de réforme de l'armée. Mais il faut le dire et qu'on résout le problème de fond qui se pose dans le processus à Mali, qui a été mal négocié, nous l'avons dit, qui est mal piloté, et que le gouvernement a failli, et c'est pas pour rien que le premier ministre est parti, en ne présentant pas le plan de désengagement. C'est la MONUC, encore une fois, qui a présenté il y a 2 semaines le plan de désengagement.
Merci
donc
beaucoup.
Il faudra reconnaître les faiblesses, les ambiguïtés de la mission de la MONUC, qu'il faudra expliquer à la population dans le cadre de l'usage du chapitre 7, mais aussi reconnaître ses propres faiblesses, et qu'aujourd'hui, si on a récupéré 3 localités, on est content parce qu'on tire derrière le tour de la MONUC. Mais lorsque les autres vont commencer à avancer, à ce moment-là, la MONUC devient une force partielle.
Merci beaucoup, Jacques Péry. Vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas porte-parole de la MONUC, puisque le porte-parole intérimaire de la MONUC est dans cette émission, Michel Bonardo. Qu'est-ce que vous pouvez encore préciser sur ce travail de la MONUC, accusé d'être partiel, par Ramadan Chadari du PPRD?
Bon, justement, au niveau des commentaires du député Chadari, c'est évident que la MONUC se déploie là où il y a des zones de conflit. Donc ce n'est pas, comme l'a expliqué le député, là où la MONUC va, le CNDP suit, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que la MONUC déploie ce qu'on appelle des bases opérationnelles mobiles, près des positions des belligérants, pour pouvoir s'interposer. Et c'est ce que font nos casques bleus de façon quotidienne, c'est-à-dire que sur le terrain, ils prennent contact avec les officiers de part et d'autre pour les enjoindre à cesser le feu immédiatement. Donc ça, c'est une précision que je voulais apporter.
Mais par rapport à l'ambiguïté, hein, parce que le sénateur Jacques Joly l'a relevé, c'est la MONUC qui apporte son soutien au FARDC, c'est la MONUC qui doit encore occuper la zone tampon, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le groupe de CNDP vous accuse aussi là-dessus. Est-ce que finalement, comment la MONUC va s'en sortir dans cette situation? qui est quand même ambiguë, parce que Jacques Delis l'a dit aussi.
Écoutez, selon nous, la situation n'est pas ambiguë. On a, il y a des engagements qui ont été pris à Goma par toutes les parties. Il y a, comme l'a souligné le sénateur, il y a un plan de désengagement qui a été produit par la MONUC et accepté par le gouvernement. Mais force est de constater que du côté des forces armées de la République démocratique du Congo et du côté du CNDP, ce plan n'est pas respecté. Et que donc les zones, ce qu'on appelle les zones de séparation,
les zones temporaires,
oui, qui sont appelées en fait zones de séparation dans les documents, ne sont pas mises en œuvre partout. Dans certains endroits, on remarque que les FRDC se retirent effectivement, dans d'autres endroits, on remarque que le CNDP se retire effectivement, mais ce n'est pas fait de manière générale. Alors, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, c'est-à-dire la paix et la guerre en même temps, et blâmer la MONUC entre les deux. Donc la MONUC, ce qu'elle souhaite, c'est l'application effective, et ce n'est pas la MONUC. La MONUC, tout ce qu'elle fait, c'est ce que lui demande le Conseil de sécurité de faire. Et c'est le Conseil de sécurité qui lui demande de mettre en application l'acte d'engagement de Goma et le communiqué de Nairobi.
Oui. Et peut-être rapidement, en une minute, Michel Bonardo, vous qui êtes porte-parole de l'intérimaire de la MONUC, le chapitre 7, parce qu'on a entendu dans différentes marches, la MONUC doit imposer la paix, et Jacques Joly a dit que peut-être que ce chapitre 7 n'est peut-être pas bien compris par la population. Est-ce que vous pouvez dire un mot, de façon succincte, sur le chapitre 7?
Oui, bien sûr. En fait, les gens seraient peut-être déçus s'ils lisaient le chapitre 7. Tout ce que le chapitre 7 fait, c'est qu'il permet au Conseil de sécurité de décider d'un usage de la force en ultime recours. Hein? Et donc, le chapitre 7, quand le Conseil de sécurité agit en vertu du chapitre 7, c'est qu'il a l'autorité de donner l'usage de la force à la force de maintien de la paix qui est sur place. Maintenant, les détails de l'application du chapitre 7 sont donnés dans les résolutions du Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui décide dans quel cas on utilise le chapitre 7.
Et dans quel cas on utilise le chapitre 7?
Ben dans le cas présent, la dernière résolution du Conseil de sécurité demande effectivement à la MONUC de mettre en application les actes d'engagement de Goma. Et donc, qui est suivi d'un plan de désengagement. Et parle du chapitre 7, parce que toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur les Kivus, dans ces résolutions-là, le Conseil agit en vertu du chapitre 7. C'est surtout par rapport au FDLR, Expar, Interam, appelez-les comme vous voulez, c'est surtout par rapport à ces groupes armés-là que le Conseil de sécurité s'exprime et demande à la MONUC d'aider les forces armées de la République démocratique du Congo à se débarrasser, si vous voulez, de ce qu'ils appellent des groupes récalcitrants, donc les FDLR, Expar, Interamoué.
Madame Chanary, vous êtes rassuré parce qu'entre-temps, vous allez répondre à Jacques Joly qui vous demande aussi à vous de la majorité présidentielle, vous qui avez organisé ces marches, de pouvoir reconnaître aussi les propres faiblesses du gouvernement congolais.
Bon, vous savez, mon collègue Joly, il est de l'opposition, et moi je vous parle de paix.
Et vous êtes la majorité?
Je suis de la majorité, je vous parle de paix. Je viens des vacances parlementaires. J'étais à Goma, j'étais à Bukavu, j'étais à Uvira, j'étais à Fizi, jusque ce mois à Kabandari. Je vous donne des faits que moi j'ai vécu sur le terrain. La situation de la population. On ne spécule pas. La MONUC, nous reconnaissons que la MONUC nous a aidés pour organiser ces élections. Coup de chapeau. Mais les missions principales de la MONUC pour le maintien de la paix, aujourd'hui, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, Masisi, Rutshuru, est-ce qu'il y a la paix? Il y a les slogans qui passent partout à l'est là. Les slogans qui viennent de la MONUC.
Qui dit quoi?
No Konda, no Job.
Ça, c'est la MONUC qui dit.
C'est la MONUC, no Konda, no Job.
Et quand vous dites la MONUC, c'est qui exactement?
C'est
un MONUC.
Je n'accuse pas toute l'organisation,
ouais.
Mais c'est un cadre. Et ils sont très influents. Ils disent, s'il n'y a pas de Konda, il n'y a pas de Job, nous rentrons chez nous. Donc, c'est clair, c'est connu à travers la population. Et il faut avoir des tactiques pour dire à la population que ce n'est pas ça. Les gens disent que les présidents de la MONUC sont ici. Si Konda s'arrêter, si la guerre prenait fin, et la MONUC plierait les bagages, et puis c'est fini, ils n'auront plus de job.
Donc, quand on vous passagez,
c'est pas ça. Je viens du terrain, je viens du terrain. Quand on parle du chapitre 7 de la Charte de l'ONU, ce chapitre-là autorise à la MONUC d'utiliser tous les moyens nécessaires, je dis bien, tous les moyens nécessaires dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités pour dissuader toute tentative de recours à la force qui menacerait les processus politiques de la part de tout groupe armé congolais ou étranger. Donc, quand on dit que notre armée a des faiblesses, on reconnaît ça.
C'est
comme un pays post-conflit. Nous, pour refaire l'armée, pour bâtir une armée, il faut beaucoup de temps. En Afrique du Sud, un pays africain qui est déjà plus ou moins développé, ils n'ont pas encore atteint le maximum de les réformes au niveau de l'armée. Nous aussi, on a commencé au niveau de l'armée, mais il ne faudrait pas en profiter pour laisser Kunda et les Rwandais jouer le casque avec la complicité de la Monique. Nous avons des informations. Je vous parle, je suis député national. Je vous dis, je viens de faire tous les pendant les vacances parlementaires. 39 jours, nous avons des noms de certains membres de la Monique au niveau de l'armée qui donnent des informations au CNDP par rapport aux positions de nos troupes. Nous avons des informations fiables. Je vous parle comme responsable. Des responsables au niveau de l'armée de la Monique, s'il vous plaît, qui donnent même, qui fournit des armes de condamnatoire. C'est un militaire. Dites-moi un peu, où est-ce qu'il a toutes ces armes?
Évidemment, ce n'est pas la réponse.
Vous n'avez pas la réponse.
Je
parle à ceux qui m'écoutent. Il est un simple citoyen. Il s'est dit congolais. Il revendique ça au nom de qui? Et qu'il donne toutes ces armes-là?
Voilà, donc pour vous.
C'est pas des questions.
Ouais, pour vous, c'est la Monique qui donne les armes, c'est la Monique qui.
Ce n'est pas la toute la Monique, il y a certains éléments.
Voilà.
Non, Kunda, non, Jones.
Voilà.
Ils en profitent.
Et la LRA, c'est toujours la Monique?
La LRA. Ici, nous parlons d'un problème de Nord-Kivu et Sud-Kivu.
Voilà.
Si c'est LRA, on va ouvrir la baisse.
Ok. Peut-être un mot avec vous, Jean-Claude, on passe à la deuxième partie.
Heureusement, vous avez suivi. Vous savez, le problème Kunda ne doit pas occulter nos capacités institutionnelles et militaires d'assurer la gouvernance de notre pays. Vous savez, oui, Kunda sera en mèche de mèche avec la Monique, soi-disant. Kunda est à l'air avec le Rwanda. Mais qui finance,
vous affirmez?
Non, j'ai dit, c'est que... Mais qui donne les armes au Maïmaï? Qui donne les armes au Parekoa? Qui c'est Maïmaï l'une de l'autre? Qui donne les armes aux FDLR? Parce que c'est tout ça, cette floraison de tous ces groupes armés dont nous ne sommes pas encore capables d'évacuer. Aujourd'hui, nous parlons de Kunda. Mais vous avez soulevé, les LRA entrent sur notre territoire, les Mbororo entrent sur notre territoire. Est-ce que c'est la Monique qui donne le moyen aux Mbororo, aux LRA, et qui empêche le gouvernement de la République et ses moyens militaires et sécuritaires pour sécuriser les Congolais qui sont dans le Haut-Tolé? Aujourd'hui, la situation est en train encore d'évoluer négativement dans l'Ituri. Donc, le problème, c'est le concept global de gouvernance politique et sécuritaire de notre pays. Et là, le gouvernement s'est caractérisé par l'immobilisme. C'est très facile d'accuser les autres. Mais que faisons-nous? Quel est l'état du processus de réforme de notre secteur de sécurité? Quelle est l'attitude de nos troupes vis-à-vis de la population? Ce sont des questions de fond qui méritent d'être posées au lieu d'organiser des manifestations dans la rue. Ça, on connaît. Ce sont des manipulations qui sont intéressantes, n'est-ce pas, pour distribuer des prébendes ou des cadeaux aux militants face à la situation d'une population qui souffre réellement et qui demande des solutions politique, diplomatique, économique, responsable.
Merci beaucoup, Jacques-Louis. On va prendre le premier lot des réactions qui nous viennent des auditeurs. Et à la première réaction, la MONUC est une mission de maintien de la paix, mais ce n'est pas le cas en RDC, où elle assiste impuissante au malheur des Congolais. Nous voulons à ce qu'elle s'implique activement dans la recherche de la paix. Sinon, elle n'a pas sa raison d'être. La réaction est signée. Jean Malonga de Butembo au Nord Kivu. Et là, nous aurons bien sûr la réaction de Michel Bonardo, peut-être tout de suite, parce qu'on va prendre les deux autres réactions après.
Donc, je suis désolé de voir qu'il pense que la Monique n'est pas activement impliquée. Il faut voir le nombre de vols par jour dans ce pays, le nombre de vols d'avion, de vols de reconnaissance, d'actions qui sont menées sur le terrain, que ce soit par nos casques bleus ou par notre personnel civil. S'il y a eu effectivement des améliorations dans les conditions de vie de bon nombre de Congolais, c'est dû justement à l'action de la MONUC. Alors la MONUC, peut-être que votre auditeur ne le sait pas, mais s'interpose entre belligérants tous les jours, et à ce que je sache, il n'y a pas de Congolais qui fassent ça, ou d'organisations congolaises qui s'interposent comme ça, et qui aient des tirs qui passent au-dessus de leur tête, pour s'interposer entre les belligérants, les convaincre d'arrêter ce genre de combat qui, on l'a bien vu à travers les années, ne mène à rien.
Et que la MONUC n'accepte pas Kunda pour justifier l'adage selon Ramadan Chadari, non Kunda no job.
Écoutez, non Kunda no job. Il faudrait voir l'inflation qu'il y a dans le nombre de missions de maintien de la paix à travers la planète pour se rendre compte que ce n'est pas le travail qui manque. C'est un peu désolant de voir ça. Parce que, vous savez, si au moment où on se parle, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, cherche activement des troupes pour le Darfour, notamment, on parle d'une mission en Somalie, le nombre de troupes, le nombre de pères de famille, si vous voulez, d'hommes qui sont prêts à venir se battre dans un pays étranger et qui sont prêts à risquer leur vie est quand même assez limité, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des besoins énormes ailleurs ou dans le continent et ailleurs sur la planète.
Merci beaucoup. On va prendre une autre réaction, la toute dernière pour cette première partie. Elle nous vient de Bukavu, un auditeur anonyme. Il dit ceci, je cite, « Je suis à Bukavu, que la population de la RDC sache que n'eût été la présence de la MONUC qu'elle est en train de menacer aujourd'hui, le pays serait divisé en trois parties. » Ramazan Chadari, réaction.
Oui, je respecte son point de vue. Il est à Bukavu. Nous parlons de la situation du Nord Kivu aujourd'hui. Nous disons que nous respectons le travail que la MONUC a battu depuis 1999. Mais ici, vous nous avez invités pour la situation qui se passe actuellement à Goma. Il y a eu des marches de protestation. Pourquoi les gens ont protesté? Ils demandent à ce que la MONUC fasse exactement le travail pour lequel elle a été invitée.
C'est quand même des marches que vous avez organisées, non?
Beaucoup de marches à travers le pays.
Ouais, c'est des militants de l'AMP quand même.
Des militants de l'AMP et c'est reconnu par la Constitution. C'est une façon de donner son point de vue.
Donc c'est pas spontané?
Non, c'est spontané. C'est spontané. C'est spontané.
C'est des marches spontanées?
Ce sont des marches spontanées. Mon frère, les gens qui sont dans le Kivu nous suivent. Tout ce qu'on raconte ici, si les gens de Nord-Kivu nous suivaient tous, vous allez avoir beaucoup de questions qui vont nous poser.
Quelles questions nous arrivent justement parce qu'on a une autre. On a une autre.
Quelques questions seulement.
Il y a une autre. On va poursuivre pour donner aussi.
Ils nous disent même c'est ça. Ils nous disent voilà.
Rapidement.
Quand vous êtes là.
Oui.
Quand naturellement il a qu'une mission. Vous savez, il est Tutsi. Il y a la diabolisation entre Tutsi et Hutu au Rwanda, au Burundi, et on a amené ça au Congo.
Bon, c'est un avantage.
Aujourd'hui,
on ne parle pas des détenus.
Les déplacés de guerre aujourd'hui, à 90% sont routes.
Ouais, c'est pas un débat. On va pas soulever ou chercher à diviser les gens par leurs ethnies. Peut-être, on termine avec vous, Jacques Joly, avec Kassamba qui nous écrit depuis Bounia en province orientale. La MONUC n'est pas le gouvernement congolais, elle joue simplement le rôle d'accompagnateur. Comptons d'abord sur nous-mêmes, dit-il, le principal responsable de la sécurité, c'est le gouvernement.
Mais je crois que c'est ce que je vous ai dit. Voilà au moins un citoyen qui comprend le rôle qu'il attend de son gouvernement. Lorsqu'on parle du chapitre 7, on nous dit que dans ce chapitre 7, qui prévoit, n'est-ce pas, une panoplie de moyens d'intervention de l'ONU à travers ces opérations de maintien de la paix, il y a l'article 150 et l'article 51 qui consacre le droit de légitime défense d'un pays, d'un gouvernement. Donc, la MONUC assure éventuellement l'appui. Et dans le cadre du concept opérationnel qui a été entendu, ce n'est pas la MONUC d'aller devant. Une mission de maintien de la paix n'est pas une mission de guerre. C'est une mission de paix. La philosophie générale d'une mission des Nations Unies, ce n'est pas de guerroyer, c'est d'inviter les belligérants, encore, que très souvent c'est entre États. Et ici, nous sommes dans un concept d'un État, d'une crise interne. Donc, il appartient au gouvernement congolais de savoir ce qu'il veut. Comme a dit notre ami Bernardo, est-ce qu'on veut la paix ou on veut la guerre? Est-ce qu'on veut gouverner ou on ne veut pas gouverner par la menace, par la brutalité? C'est ça la problématique. Donc, la question est là. Depuis plus de 9 mois que le gouvernement s'est engagé dans les cas du processus à Mali, ben, tout ce qu'on attendait de lui n'a pas tiré ça du gouvernement là. Qu'il faut pas faire, il a laissé couler la situation. Et même si mon collègue est là, un de points, c'était l'amnistie. Dans quelles conditions on nous a amené cette loi sur l'amnistie? En catastrophe, à la fin de la session. Ce qui fait qu'il n'y a pas une vision globale de gestion d'une crise de gouvernement.
Merci beaucoup, Jacques Jolie. On poursuit cette émission, différentes marches de protestation à travers le pays contre la guerre et l'action de la MONUC. Quel est le rôle de la MONUC et du gouvernement dans la pacification du pays? Restez sur Radio Capi puisque nous en parlons tout de suite, mais avant cela, le rappel de notre contact.
Dialogue au Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quel est le rôle de la MONUC et du gouvernement dans la pacification du pays? Avant de poursuivre les débats, signalons que sur le plan sécuritaire, en plus de la guerre au Nord Kivu et la reprise des combats à l'Ituri entre FARDC et les groupes résiduels du FRPI, le Nord Katanga est aussi en proie à plusieurs problèmes sécuritaires. Ces problèmes sont liés aux revendications des groupes d'ex-Maïmaï. Les uns réclament leur intégration dans l'armée nationale, d'autres leur reconnaissance comme groupe armé, d'autres encore seraient même en train de se réorganiser. C'est le constat du commandant de la 6e région militaire à l'issue de sa tournée dans cette partie de la province du Katanga. Le général Padiri Boulenda, qui était accompagné du commandant de la brigade MONUC Katanga, a mis en garde tous ceux qui menacent de reprendre la guerre. C'est un reportage de notre confrère Colin Tumamusopo.
À Pweto, par exemple, une centaine d'ex-maïmaï du groupe Fidel Tumbi, un ancien lieutenant de Gédéon, menace de reprendre les hostilités si leurs revendications ne sont pas prises en compte. À Manono, plusieurs centaines d'ex-combattants continuent jusqu'à ce jour à attendre l'heure de mobilisation ou intégration. Fatigués d'attendre, ils seraient même en train de se réorganiser. À Nyonzou, les ex-combattants d'Emmanuel Kyungu exigent du gouvernement congolais une indemnisation pour avoir combattu. Ils affirment n'avoir jamais été démobilisés. La situation reste aussi préoccupante à Kalemi, où certains ex-combattants démobilisés continuent à porter les galons et se considèrent officiers supérieurs de FARDC. Le commandant de la 6e région militaire a mis en garde tous ses ex-chefs Maïmaï. Dire qu'il existe des gens qui ont des groupes armés quelque part dans la brousse, le gouvernement n'a jamais accepté de telles choses. L'heure de négociation est déjà dépassée. Que personne ne pense qu'il faut vivre en brousse avec des revendications et exiger au gouvernement de négocier. C'est devenu du passé. Le général Padiri Boulenda a aussi indiqué que la situation sécuritaire dans le Nord Katanga mérite une attention particulière si l'on veut éviter qu'elle ne s'embrasse. Lubumbashi, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Une petite réaction rapide de Michel Bonardo sur la persistance de certains groupes armés, notamment en Ituri, et puis ces ex-Maïmaï qui menacent de reprendre les armes parce qu'ils se disent abandonnés au Nord Katanga.
Écoutez, c'est malheureusement toujours un peu le même problème, hein, c'est que ces groupes armés adhèrent à un processus quel qu'il soit, que ce soit au Nord Katanga, une région que je connais particulièrement bien, ou en Ituri. Et ils se retrouvent avec des promesses qui sont comblées à moitié ou qui ne sont pas tout à fait réalisées.
Les promesses de la part de qui?
De la part de ceux qui font ces accords, donc en l'occurrence le gouvernement de la RDC à ce moment-là, ou les FARDC, que ce soit le gouvernement de transition ou le gouvernement actuel. Et évidemment, ça mène à un certain nombre de frustrations de la part de ces groupes armés qui se remettent à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des combats et déstabiliser certaines zones du pays. Donc, c'est vraiment important. Et de toute façon, même du côté de ces groupes armés-là, ils reçoivent des sommations de se présenter, etc. Et ne se présentent pas nécessairement dans le temps voulu, ni où on se demande en fait si ils comprennent très 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 bien les accords qui sont pris. Et ça mène à des malentendus et ça mène à ce type de frustration qui menace malheureusement les populations. C'est toujours les populations civiles qui en écopent.
Voilà. Et Ramazani Shadari, finalement, pour mettre la fin à la guerre à l'Est, les touris, les revendications de ces ex-Maïmaï au Nord Katanga, que devrait faire la MONUC selon vous?
Je l'ai dit dans la première partie. La MONUC devrait jouer son rôle en toute impartialité.
Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement?
concrètement,
oui.
Ça signifie ceci. Faire en sorte que il y ait la paix dans ce pays. Faire en sorte qu'il ne faut pas favoriser un groupe pour que la guerre continue et pour justifier son existence en République démocratique du Congo.
Alors que le CNDP accuse aussi la monnaie.
Moi, je parle de mon parti.
Oui, allez-y.
Alors, vous suivez, quand les gens disent que dans certaines positions, les FARDC, ce sont les éléments de la MONUC qui donnent des informations fiables au CNDP.
Et les gens là, c'est qui?
Je vous dis, certains responsables de la MONUC, je ne vais pas donner les noms ici, mais sont comme à la radio, encore la radio de la MONUC.
Non, vous dites, les gens disent, ce sont votre base
d'informations. Moi, je suis député, j'ai beaucoup d'informations, et ce que j'ai dit, c'est vérifiable, et je sais que les gens qui me suivent, ils sont tout à fait d'accord avec
ça. Ok, donc la MONUC doit être impartiale.
La MONUC ne doit pas fournir des informations d'autres groupes, n'est-ce pas, au CNDP, pour perpétuer, n'est-ce pas, l'état de guerre. Et deuxième chose, la MONUC doit faire par exemple ce qu'ils ont fait au niveau du Nord Kivu. Vous savez, dans le parc national de Virunga. Le parc de Virunga, à l'époque d'un certain commandant Maïmaï, Johnson Kasereka, la MONUC pour la paix, à l'époque de Virunga, la MONUC a quand même aidé le gouvernement avec des actions palpables. Avec le commandant Kasikila. La MONUC a bien collaboré avec les FARDC pour ne pas mettre à l'état de nuit Jean-Claude Kasereka.
Et pour le cas de l'Ituri, avec des groupes armés qui, ou encore des ex-démobilisés qui n'ont toujours pas reçu leur kit. Qui doit leur donner?
Je dois vous dire, honnêtement parlant, je ne maîtrise pas la situation de l'Ituri avec LRA. J'ai mettais la situation du Nord Kivu et du Sud Kivu, et c'est pourquoi j'ai accepté de venir ici.
Voilà. Jacques Joly, que doit faire la MONUC? Que doit faire le gouvernement? Parce qu'il n'y a pas que la MONUC.
Je crois que là, nous sommes en pleine ambiguïté. Lorsque une majorité au pouvoir, disposant par ailleurs de la totalité, entre les mains, de la puissance publique, c'est-à-dire l'armée, les services de sécurité, et la police, qui ne doivent pas s'émuler tout de suite en face des répressions de l'opposition. Voilà les lieux où le gouvernement ou la majorité doit déployer ses moyens. Vous avez parlé du Nord Katanga. Je vous ai dit que le problème est global. Il s'agit d'une fiche étatique. Lorsque nous sommes partis aux élections, on a résolu le problème de la légitimité. Il appartient maintenant à la nouvelle majorité d'assurer l'effectivité du pouvoir. Or, là, il n'y a aucune vision. Voilà pourquoi, au Nord Katanga, les gens reviennent aux armes. Le problème global du ministère de la Défense, qui a passé journée à injurer Tumukunda sur le radio, devait de voir l'efficacité, n'est-ce pas?
Non, pas ça, il faut être. Les mots de la Défense n'existent pas.
Bon, je réponds.
Jacques-Louis vous a suivi. Il vous a suivi. Il a retiré.
Il a retiré.
Mais il a déjà retiré.
Non, Ramazani, s'il vous plaît, Ramazani Chadari. Il a retiré.
J'ai retiré. Mais je crois qu'il ne faut pas les relations du programme DDR avec la CONADER qui a échoué au suivant les propos du ministre, et on a mis en place une nouvelle unité. Donc il faudra rapidement aller dans la solution de ces groupes armés qui pullulent sur l'ensemble du territoire, aussi bien au Nord Katanga, au Kivu, Nord Sud Kivu, avec tous ces groupes, les Maïmaï, les Virondo, les Katindia, les Jackson, les Rasta, et les Yakutuba, les Bishogo, tout ce monde-là doivent trouver une place dans le processus, n'est-ce pas, de démobilisation et de réinsertion sociale. C'est là le milieu. Entre-temps, il faudra réinvestir l'État. Donc, ce n'est pas à la MONUC de faire la paix. C'est au gouvernement congolais, et je crois,
mon ami Ramazanila, le chef de l'État a été élu sous le concept Amani. Merci donc beaucoup. Il faudrait répondre à cette préoccupation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ramazanila, ça a dit que le président de la République était à Goma dernièrement. On va d'abord prendre d'autres réactions des auditeurs avec Kitty Nkoutou. Bonsoir, Kitty.
Bonsoir, Jean-Claude. Beaucoup de réactions, mais faute de temps, nous ne savons pas les lire toutes.
Tout à fait.
Sylvain Kassongoupi Manono Katanga pense que la MONUC est une machine lourde sur laquelle le peuple congolais ne peut pas se fonder ses espoirs. Il doit compter sur l'encadrement et la modernisation de l'armée congolaise par le gouvernement et non par la communauté internationale. Quant à Augustin Kasukulu, les manifestations populaires font preuve du nationalisme pour prouver aux ennemis qu'aucune partie du sol congolais ne sera jamais cédée. Enfin, depuis Beni au Nord Kivu, Eric Mukama estime pour sa part que le mandat de la MONUC ne rassure rien, car on continue à dénombrer les morts et les déplacés. Le gouvernement congolais devrait donner plus de moyens aux FARDC pour défendre notre territoire que de compter sur la MONUC.
Merci beaucoup, Cécile Mpoutou. On revient vers vous pour prendre une minute, parce qu'il ne reste plus que 4 minutes pour terminer cette émission. D'abord avec vous, Michel Bonardo, pour répondre à Eric Mukama qui nous écrit de Beni. Lui, il dit que le mandat de la MONUC ne rassure en rien et, parce qu'il y a des morts et des déplacés. Le gouvernement congolais devrait jouer son rôle en donnant suffisamment de moyens aux FARDC. Monsieur Bonardo, vous êtes porte-parole intérimaire de la MONUC.
Oui, effectivement. Écoutez, donner les moyens aux FARDC de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire, c'est précisément ce que dit le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions. Donc ça fait toujours partie du préambule. Mais maintenant, à la MONUC, au maintien de la paix en général, on ne croit pas à la guerre et on ne croit pas aux solutions militaires aux problèmes. Je pense que l'histoire récente du pays, et notamment l'histoire récente du Nord Kivu, et même du Sud Kivu, prouve bien que ce genre de combats n'ont toujours mené à rien. On est encore dans la même situation et on déplore encore des centaines de milliers de déplacés, ce qui est inacceptable à notre avis. Alors, il y a un cadre qui a été préparé avec l'accord de la MONUC qui s'appelle l'acte d'engagement de Goma, le plan de désengagement qui a été préparé par la MONUC. C'est ça la voie qu'on préconise, c'est le cessez-le-feu, c'est la réconciliation.
On a une autre question, évidemment, qui nous vient d'un auditeur anonyme. Lui, il s'interroge, il dit, si la MONUC, aujourd'hui, mettait fin à sa mission, que deviendra ou deviendrait la RDC, Ramadan Chadari?
Moi, je ne demande pas à la MONUC de quitter. Mais je suis surpris quand on me dit ici, bon, la MONUC ne croit pas aux solutions militaires avec ce qui se passe au Nord Kivu. Ça me surprend. Et ça me fait peur. Donc, toutes les actions que mon ami, le sénateur Njoli demande, les moyens qu'on doit donner au gouvernement, les réformes au niveau de l'armée, les réformes au niveau du secteur de sécurité dans l'ensemble, en suivant ce qu'on nous dit ici, c'est comme si ça n'aboutira à rien. Il faut seulement s'impliquer dans le plan de désengagement. Vous savez,
c'est que vous ne croyez pas vous-même au plan de désengagement.
Bon, Kunda Batware qui joue le jeu des Rwandais, ils ont un principe.
Ça, c'est vous qui.
C'est moi qui parle.
Ça
ne m'engage que moi. Et quand on dit quand je dis qu'il engage, il joue le jeu du Rwanda, le principe là-bas c'est talk and fight.
C'est-à-dire
faire semblant de parler, mais battre. La victoire est militaire.
Merci beaucoup. On va terminer dans cette ronde sur les réactions des auditeurs avec Sylvain Kassongo qui écrit depuis Manono Katanga. La MONUC est une machine lourde sur laquelle le peuple congolais ne peut pas fonder ses espoirs. Il doit compter sur l'encadrement et la modernisation de l'armée. On termine avec vous, Jacques Tony.
Je crois que son analyse de la MONUC est peut-être réelle, machine lourde. Mais ce qui est important, c'est que ces messieurs ont compris que c'est dans la modernisation de notre armée, dans la professionnalisation de notre armée, dans la saisie des problèmes réels, dans la résolution politique de ces problèmes, mais aussi diplomatique. Donc, il nous appartient de voir que le problème qui se pose à l'Est, particulièrement avec Kunda, est à la fois diplomatique, il faut discuter avec le Rwanda, et à la fois politique, il faut que nous puissions savoir vivre ensemble, comment faire cohabiter des communautés qui ont eu à se battre pendant longtemps, qui ont perdu confiance à l'État, il faut s'engager dans les actions économiques. Je crois que le gouvernement qui vient de tomber par incapacité, la majorité actuelle va nous mettre en place un gouvernement plus visionnaire, plus efficace pour répondre aux problèmes des Congolais.
Merci beaucoup Jacques Joly, merci à vous aussi Michel Bonardo et Ramazan Sadari. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Mimi Kindou était à la technique, Virginie Lampal à la réalisation, Kevin Kouté, Titine Poutou et Claude Kianza, ainsi que moi-même, Jean-Claude Mbakamanga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Thank you.